Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface, Les Caprices de Thérèse. Dégustez l'excellence. Chut, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Et au menu de ce tout nouveau numéro de Chut, on écoute la télé, l'hebdo. Aujourd'hui, trois coups de cœur cinéma qui nous attendent. Le premier consacré à L'Arnaqueuse qui sort mercredi dans les salles. Un film de Wilfried Méhance avec Fadili Camara et Tiffaine Davio qui seront également nos invités dans une poignée de secondes. Deuxième coup de cœur ciné pour le film Pour le meilleur avec Philippe Croizon et Susanna Sabino dont la vie est inspirée dans le film. Lily Fleur Pointeau qui joue Susanna mais également Marie Castille-Mention-Char, la réalisatrice, seront avec nous en fin d'émission. Coup de cœur télé, téléfilm événement de France 2 qui sera diffusé mercredi soir L2. La productrice Mathilde Mufang ainsi que le compositeur Johan Kerescu et les comédiens Kassim Lemaître et Myriam Serba seront nos invités. Et puis en avant-première, le film sort mercredi dans les salles. Nous recevrons toute l'équipe lundi prochain dans Chut. On écoute la télé sur toutes les radios partenaires. Mais aujourd'hui en avant-première, eh bien nous allons parler de La Poupée. Sophie Beaulieu, Vincent Macken, Cécile de France, Adèle Journaud et Gilbert Melki seront nos invités exceptionnels en exclu podcast et en avant-première aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé. Vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer, alors on démarre tout de suite avec notre spécial L'Arnaqueuse.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur cinéma cette semaine, c'est pour L'Arnaqueuse qui sort mercredi dans les salles. Un tout nouveau film de Wilfried Méhance qu'on retrouve en solo ce coup-ci. Bonjour Wilfried.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Il est venu avec deux de ses comédiennes, Fadili Camara. C'est une première dans l'émission. Bonjour Fadili.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Moi, j'admire déjà Fadili sur scène. Mais alors là, dans le film, vous allez voir, elle est incroyable. Tiffaine Davio est avec nous aussi. Elle sait, Tiffaine, tout le bien que je pense d'elle depuis le temps. Bonjour Tiffaine.
Bonjour.
Merci d'être là toutes les deux. Wilfried, moi j'ai eu l'impression, en voyant le film, que j'assistais un peu à un western entre Josiane Balasko et Fadili Camara, entre ces deux personnages complètement dingues. Tiffaine joue le rôle de la meilleure amie de Fanny, qui interprète Fadili. Comment est née déjà l'idée, de base?
Alors l'idée, pour le coup, elle vient pas de moi. Donc voilà, je vais rendre à César ce qui appartient à César. Moi, quand on m'a proposé le film, c'est un scénario qui avait été écrit par Jean-Pascal Zadi, Stéphane Landowski et Michael Souhaité. C'est une idée originale de Jean-Pascal. Et en gros, moi, ils m'ont proposé ce projet au mois d'avril. Et c'est eux qui avaient vraiment un script fini. Et en gros, ils avaient revu et un peu remixé l'idée du viager en y injectant l'idée d'arnaque.
Et l'arnaque, eh bien, c'est Fanny qui va en faire les frais. Fanny a 30 ans, elle est enceinte, elle en a peut plus de vivre chez ses parents avec Virgile, son compagnon, incarné par Jean-Pascal Zadi. Et puis là, elle tombe sur l'affaire du siècle, une femme mourante, avec un viager, un petit bouquet de 300 000 euros, et après quelques mois, mais normalement, ça devrait pas durer très longtemps. Sauf que cette femme mourante n'est vraiment pas si mourante que ça. Et donc, Fanny va se retrouver prise au piège dans cette histoire. Qu'est-ce qui t'a plu déjà en premier, Fanny, dans ce rôle?
Déjà, c'est vraiment l'histoire, parce que je trouvais ça vraiment marrant. Et vraiment, Josiane Balasko. en plus de ça. Jason Balasco, après, bien évidemment, tu rencontres l'équipe, tu vois l'équipe qu'on va former et tu dis, ouais, ça va être une très très belle expérience. Mais Jason Balasco, j'avoue que ça faisait longtemps, moi, que je voulais travailler avec elle. Donc c'était vraiment l'occasion. Et en même temps, ça changeait un peu de ce que j'avais fait avant. Voilà.
Et puis il y a des scènes d'affrontement entre vous deux, mais c'est jouissif. Je vous conseille vraiment d'aller voir le film mercredi. Vous allez beaucoup rire. Et puis il y a quand même beaucoup d'émotions aussi. Enfin, comme c'est si bien les faire aussi et mettre en scène Wilfried, parce que quand on voit Et plus c'est affinité ou encore Jumeaux, mais pas trop. Je sais pas si vous aviez eu l'occasion de les voir, les deux précédents. Ils sont incroyables. Tiffaine, tu joues la meilleure amie, toujours avec cette énergie folle qu'on te connaît.
Oui, absolument. Tout à fait. Tu veux que je rebondisse là-dessus?
Exactement, sur cette énergie folle.
Cette énergie de dingue. Voilà, elle est toujours là, elle est présente. Oui.
C'est la meilleure amie sur laquelle Fanny peut toujours compter, là.
Bien sûr, pas forcément, d'ailleurs, enfin, je veux dire, elle fait du mieux qu'elle peut, mais elle n'est pas toujours de très bons conseils, j'ai l'impression. Mais par contre, elle est très sympathique. Et effectivement, elle a une bonne énergie folle et au moins elle l'emmène faire des trucs. Alors après, ça se passe plus ou moins bien, mais elle est là. Donc, c'est un choix, quoi.
Si tout se passait bien, il n'y aurait pas de film.
Exact. Oui, ça, c'est le principe de beaucoup de films. Je sais pas si t'as remarqué.
On est bien d'accord.
Par exemple, Titanic, on pourrait vraiment se faire chier, je pense. Ah, c'est une croisière, il tombe amoureux, super, mais bon.
Ouais. New York, ouais. Y a aucun intérêt.
Voilà, c'est ça.
Bah oui, non, mais ça, c'est clair. Wilfried, mettre en scène un peu cette espèce de western, comment tu as vécu ces affrontements que t'as mis en scène entre Josiane et Fadili, la plupart du temps?
Bah, en gros, vraiment, la tonalité, c'était une demande, c'était une réflexion qu'on a eue aussi avec les scénaristes et les producteurs, c'était de se rapprocher le plus possible, surtout des comédies anglaises comme Un poisson nommé Vanda, ou un peu même les films, là, c'est des références très hautes, mais de Guy Ritchie, c'est-à-dire aller dans un cinéma plus et dans une réalité un peu augmentée, limite même cartoon parfois, ce qui nous permet, pour le coup, comme tu disais, d'aller sur des confrontations assez hautes, assez visuelles, et de s'amuser, vraiment. C'est le maître mot, c'était de s'amuser tout en respectant les personnages, avoir une trajectoire et avoir ce petit fond social, moi, qui me plaît toujours dans les films.
Parce qu'on va dire que Fanny, au départ, comment tu la définirais, toi? Moi, je la définirais comme une fille droite, quand même, au premier abord.
Oui, c'est une fille droite qui veut s'en sortir, qui a beaucoup d'ambition aussi, parce que pour aller faire ce qu'elle fait, bien évidemment, avec Jessica qui la pousse énormément, faut beaucoup d'ambition. Elle est aussi très, elle a beaucoup de fierté. Donc quand il y a son mec qui lui dit, écoute, non, mais c'est pas possible, on va pas pouvoir le faire. Elle va s'entêter, elle va y aller, et c'est ça d'ailleurs qui emmène toute cette escalade.
Elle va être empêtrée, on va dire, dans un espèce de mensonge au départ avec Virgile, et qui au fur et à mesure du temps, vous allez voir dans le film, donnera ce que ça donnera, mais vous allez voir qu'il y a de très très jolies scènes. Tiffaine, est-ce qu'il y en a une scène, toi, justement, particulière?
Non, il y a une arrivée de Josiane à la fin du film auquel je ne m'attendais pas, et que j'ai trouvé exceptionnelle. Ouais. Voilà, je laisse le mystère, parce que vraiment c'est incroyable. Je ne savais pas, j'avais pas vu, je me rappelais pas quand j'avais lu le scénario, mais alors vraiment ça m'a énormément plu. Voilà.
Oui, c'est vrai que c'est pas mal. On pourrait donner un indice, 25 décembre, je ne dis que ça.
Non, oui, et qui est assez surprenante, qui pouvait être un peu casse-gueule au scénario. On s'est dit ça, on va vraiment le faire. Et après, on s'est dit, le film va tellement loin que oui, on va le faire. Et en plus, comme tu le dis, il y a une petite référence à pourquoi la personne qui fait ça le fait. Et donc voilà, vous verrez. Ceux qui vont voir le film verront la ref.
Exactement. On va continuer à en parler, évidemment, de L'Arnaqueuse. Ça sort mercredi au cinéma. On revient juste après avec vous trois, mais on va écouter Abandonnance, évidemment, parce qu'on va donner envie aux auditeurs, je suis sûr, d'aller voir. C'est parti. Fadili Camara dans ses œuvres. Regardez, enfin plutôt écoutez.
Et toi, ça te dérange pas d'avoir un enfant chez mon père? Faut qu'on se trouve un chez nous.
On n'a pas les moyens.
C'est quoi? Je vais le trouver toute seule, l'appart. Et ça sera à Paris.
Est-ce que vous connaissez le viager?
Si vous êtes intéressé, il faut vous décider très vite. On a déjà plusieurs offres sérieuses.
Vous me faites penser à ma fille.
C'est trop bizarre d'attendre que les gens meurent, enfin...
Mais attends, tout le monde meurt, en fait.
Et attends, 300 000, on peut se le permettre, nous?
Mais tu vois, quand on veut, on peut.
Et parfois, on veut, mais on peut pas. Mmh. Ah oui.
Les plans trop faciles, Fanny, ça n'existe pas.
La position du bassin, là,
Là, voilà. C'est pas mal.
Bah oui. Vous vous foutez de ma gueule?
Je vais mieux.
J'ai pris un crédit à 300 000 balles. Je suis victime d'une arnaque. Là, je me fais escroquer, là. Enfin, vous pouvez rien faire, rien du tout.
Et je peux vous assurer que je vais pas mourir tout de suite.
C'est notre spéciale l'arnaqueuse avec Fadili Camara, Tiffaine Davio et Wilfried Mayence qui sont avec nous aujourd'hui. C'est vrai que moi, j'ai eu la chance de le voir au Festival de l'Alpe d'Huez il y a quelques mois. Aujourd'hui, là, on est à 2 jours de la sortie du film. Fadili, t'es sur tous les plans, t'es là, toutes les scènes. Comment t'as vécu ce tournage, toi? Est-ce qu'à la fin, t'en es ressorti un peu rincé ou est-ce que ça a été?
Oh, on était totalement rincés. Non, mais franchement, blague à part, c'était vraiment un très beau tournage. Que ce soit les acteurs, les techniciens, enfin vraiment, on était vraiment une vraie équipe. Vraiment, j'en ai que des bons souvenirs. À la fin, on était triste que ça se termine. Et le matin, bon, on a eu des pick-up qui étaient vraiment exceptionnels. Ça pouvait être vraiment du 6h du matin, du 7h, mais honnêtement, j'étais contente d'y aller. J'étais contente d'y aller parce que je savais qu'on allait passer un bon moment. Je savais qu'on allait rire avec Tiffaine. Je savais que Will, à un moment, il allait me dire, Fadili, fais ce fameux regard. Parce que Will a un regard spécifique que vous verrez dans le film. C'est dommage qu'on puisse pas vous le montrer. Mais voilà, très beau moment à passer, en tout cas.
Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand t'as su que t'allais jouer avec Josiane Balasko, justement?
Ah, mais moi, j'étais très contente, hein. Franchement, j'étais très excitée. Et en même temps, j'étais pas stressée en avoir la boule au ventre, mais je me disais, ouais, quand même, va falloir donner parce que là, t'es face à Josiane Balasko. Donc, concentre-toi sur les scènes, lâche-toi aussi pour pas être trop tendu, mais va falloir y aller. Va falloir se mettre au niveau ou essayer en tout cas de lui faire honneur, ma foi, parce que c'est Josiane Balasko en fait.
Bah oui, quand même. Tiffaine, dans cette aventure, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie d'y aller?
Bah moi, un peu tout, hein. Le scénario, moi, je trouvais ça très fun. J'aimais beaucoup mon personnage, que je trouvais très cool. Non, mais c'est vrai, les partenaires, Fadili, bah Josiane évidemment, et Will, j'avais beaucoup aimé son travail, ce qu'il avait fait précédemment, donc j'étais ravie de le rencontrer. Je n'ai pas été déçue, je peux vous le dire. Le type est fort sympathique, Fadili également, et je la rejoins sur le fait que ici, le tournage était super sympa. Hein. Vraiment, on s'est éclaté, quoi. C'était très chouette.
Une belle amitié s'est créée entre vous, du coup.
Eh ben, écoute, ouais, on est bien contente.
T'as vu Fadili sur scène ou pas?
Non, j'ai jamais vu, mais je vais y aller désormais.
Ah oui, à l'occasion, qu'on travaille le deuxième spectacle. Allez, donc, ma foi, mais vous viendrez aussi, ma foi, vous viendrez.
Mais j'espère bien. On a eu l'occasion d'en voir déjà des extraits festivals de Alpe d'Huez il y a quelques années. T'étais monté sur scène. Bah oui, on était là, évidemment, Fadili, avec Farid Chamek, notre ami Farid, qu'on adore aussi.
Carrément, Farid. Dédicace à Farid.
Wilfried, on sait que dans tous tes films, généralement, ça tourne assez vite quand même. T'as eu un peu de temps quand même là pour le tournage, parce que ça soit sur E+ et Affinité. Ou Jumeaux, mais pas trop, je crois. C'est entre 20 et 30 jours max, toi.
Alors Jumeaux, c'était mon premier film. Souvent on dit sur les premiers films, c'est un peu dans le speed. Et en fait, c'était le film le plus relax. On l'avait tourné en 35 jours. On avait le temps, etc. Après E+, c'était 4 semaines. C'était très rapide. Et là, c'était pareil. C'est-à-dire qu'en gros, c'est été intense. Tout s'est enchaîné très rapidement. En plus, on a dû avancer le tournage. Il devait commencer que mi-septembre. On a commencé le 25 août et on a fini le 3 octobre. Donc c'était vraiment 6 semaines très rapide, très intense. En plus, c'était un film particulier parce que comme ça parle aussi de luxe, d'argent, on tournait dans des décors qui devaient refléter ça, et on a dû aller très loin de Paris des fois pour tourner dans des hôtels particuliers, dans des golfs. Enfin, vous verrez ça dans le film. Et donc pour le coup, voilà, comme disait Fadili, il y avait des pick-up très tôt le matin avec des journées très intenses. Mais voilà, c'était un challenge de le faire.
Le secret, c'est la préparation.
Exactement, c'est la préparation, c'est de faire des lectures ensemble avant. Mais là, ça a été très intense, hein, quand même. Voilà.
Là, il va appartenir dans le public dans 2 jours. Comment tu te sens, Fadili?
Moi, franchement, je suis excitée. Hein. Moi, je suis excitée. Bien évidemment que c'est moi qui le dis, donc on va dire que j'ai pas assez de recul, je suis pas assez objective, mais en tout cas, je suis contente que les gens y voient ce film-là. J'ai pas de doute, en tout cas, qu'ils passeront un très très bon moment, et je suis juste excitée, voilà, d'avoir les retours, et ça y est, let's go, les gars.
Bah oui, bien sûr, on est toujours contents. Bah le but, c'est quand même de faire des films pour que les gens le voient, donc y a là, j'ai envie de dire.
Vous avez pu avoir les premiers retours dans les avant-premières aussi, ça rassure, Wilfried?
Complètement. Oui, non, mais en fait, on fait quand même des films pour les gens, donc plus il y a de public qui viennent en salle voir les films, surtout les comédies, en fait. Quand on voit une comédie dans une salle avec du monde, c'est pas du tout pareil que quand on la regarde seule ou même dans une salle où il y a moins de monde. Donc plus on peut aller au cinéma ensemble, plus on peut voir des comédies ensemble, et plus c'est fort et ça participe au film. Le public a un rôle aussi sur le film, et ses réactions font que ça va donner une expérience de salle qui sera différente.
On termine très rapidement par vos projets, à tous les trois. Fadili, retour sur scène, est-ce qu'il y a des rôles qui arrivent à partir de ce mois de mai?
Oui. Moi déjà, il y a mon deuxième spectacle qui va arriver cette année, donc voilà. Les amis, restez connectés. Et ensuite, j'ai deux séries qui arrivent. Alors pour le coup, c'est pas des séries françaises, c'est des séries anglophones. Qui seront sur les plateformes que vous connaissez, ma foi. Donc, restez connectés, Los Amigos. Je n'ai pas les dates précises, mais restez connectés sur mes réseaux, ma foi.
Exactement. Tiffaine, je crois qu'il y a une grosse série aussi.
Alors, moi, j'ai fait une série pareille, c'est espagnole pour HBO, qui s'appelle In Vitro. Je ne sais pas du tout quand est-ce que ça va sortir, parce que vraiment, elle a terminé il n'y a pas très longtemps. Et après, je suis dans le prochain film d'Agnès Jaoui. Ce qui est très agréable également, c'est-à-dire qu'après Josiane Balasco, c'est quand même pas dégueulasse.
Ouais, la classe.
Des petits rêves de. Ouais, en plus, il y a Daniel Auteuil, moi je suis complètement fan.
Pas mal.
Ouais, voilà. Donc, ouais, c'est chouette.
Wilfried, nouveau film bientôt?
Bientôt, oui, mais alors je sais pas lequel, parce que j'en développe plusieurs en parallèle, donc voilà.
C'est le luxe, ça.
Oui, voilà, c'est ce qu'on va dire.
Merci à tous les trois. L'Arnaque, c'est mercredi au cinéma, on ne le rate pas. Et puis merci d'avoir été avec nous, en tout cas pour nous le présenter. À bientôt.
Merci beaucoup,
merci
à toi.
Merci, Allah.
Qu'est-ce qu'il dit qu'on doit la payer tous les mois?
C'est le contrat, Jess.
Ok. Et le contrat, il est où?
Qui est là?
Oh, les garces! Comment crois-tu qu'on change de vie, Fanny? Respectons les règles.
On a tous quelqu'un qui nous pourrait l'existence. Je vais vous apprendre à vous en débarrasser.
Bah alors, qu'est-ce que tu attends?
Vous pouvez utiliser un intermédiaire. La voiture bélier. Car on ne le dit pas assez, mais à la maison, on a tout ce qu'il faut pour fabriquer le poison qui marche à tous les coups.
Mais ça se voit qu'elle cannera jamais, en plus.
Je vois pas que c'est que de l'amour, ce petit bout de femme.
Tu crois vraiment que j'ai essayé de la tuer?
Allez, ne bougez pas, notre spécial L2 débarque dans quelques instants, juste après cette petite pause. À tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. Le rendez-vous des stars... C'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
T'as changé, et quand on se parle, rien que je reconnais. Tu sais plus rien de ma vie, ça m'effraie. Pourtant c'est avec toi que j'ai tout fait. On a tout fait, et on fait semblant, on fait comme avant. On laisse passer du temps, peut-être trop de temps. Pardon si je ne réponds pas quand t'appelles. Pardon si je ne te donne pas de nouvelles. Pardon, oh pardon, pardon. Oh, pardon si je ne réponds pas quand t'appelles. Pardon si je ne te donne pas de nouvelles. Pardon, oh pardon, pardon. Oh, j'ai changé. Avec toi, mais tu sais, y'en a trop eu des larmes versées. J'voulais pas te perdre, j't'ai tout donné. Ouais, j'ai trop donné. Et on fait semblant, on fait comme avant. On laisse passer du temps, peut-être trop de temps. Pardon si je ne réponds pas quand t'appelles. Pardon si je ne te donne pas.
C'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé. nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé cette semaine est consacré à L2, qui sera diffusé mercredi à 21h05 sur France 2. À cette occasion, nous recevons à nouveau la productrice Mathilde Mufang, qu'on retrouve après une mère sous influence il y a quelques années. On est heureux de te retrouver, ma chère Mathilde.
Eh ben, merci de m'accueillir.
Merci d'être là. Myriam Serba est avec nous également. Vous l'avez peut-être vu dans Un destin inattendu, qu'on a tant défendu aux côtés de Sonia Roland aussi. Bonjour Myriam, merci d'être là.
Merci, bonjour. Je suis heureuse aussi d'être là.
Johan Kerisco, qu'on a pu avoir justement, qui est un des compositeurs avec Léa Castel, justement de ce film, et qu'on avait pu avoir pour la série Murder Club sur M6. Il est de retour parmi nous, sans Léa ce coup-ci. On peut pas tout avoir, mais Johan est là, lui.
Bah oui, voilà, je suis là. Je suis un peu triste que Léa ne soit pas là, mais je vous salue au nom de nous deux. Voilà.
Et ça permet de parler de la musique. Et puis, le petit bonhomme, le héros de cette histoire, Kassim Lemaître, qui est avec nous. Bonjour, Kassim.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Bah, écoute, c'est avec grand plaisir. Franchement, ce petit bonhomme nous émeut aux larmes dans ce film qui raconte l'histoire de deux grands-mères qui vont se battre. C'est un combat, c'est une bataille, ce film, Mathilde.
Oui, c'est une histoire de femmes et de solidarité sur la rencontre de deux jeunes grand-mères dont les deux enfants sont partis faire le djihad et un petit garçon est né à Raqqa. Et on est 10 ans plus tard quand l'État islamique est tombé, mais que se pose la question des revenants et des revenantes, donc de retour des combattants et surtout de leurs enfants, parce que ce sont des enfants qui sont parfois nés là-bas, pas toujours, mais parfois, et où la France a un peu tardé à prendre l'ampleur, enfin à prendre les mesures et l'ampleur du phénomène et de faire revenir ces enfants et de s'en occuper. Longtemps on a essayé d'ignorer entre guillemets un peu ce problème, et nous on avait envie non pas du tout de parler des combattants, mais de parler en fait de leur famille, des victimes collatérales, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas choisi tout ça. Là dans ce cas-là, ce petit garçon il a rien demandé puisqu'il est né à Raqqa, et ses grand-mères non plus n'ont rien demandé puisqu'elles ont vu impuissantes leurs enfants partir. Et donc c'est ça dont on voulait parler, des gens qui ont eu leur vie absolument bouleversée par les décisions prises par d'autres.
Oui, c'est deux mamans qui ont vu leur vie basculer, hein, le jour où leurs enfants ont décidé de partir faire le djihad. C'est évidemment bouleversant de voir toutes les deux avec Sylvie vous démener quand vous apprenez l'existence évidemment du petit Hicham, et que vous allez tout faire pour essayer évidemment, alors soit d'en obtenir la garde, mais déjà dans un premier temps ne serait-ce que de le voir. Et je trouve ça très très dur dans le film quand vous avez les représentants de l'État qui vous disent non, vous n'avez même pas le droit de le voir ni d'y parler. Comment on peut arriver à jouer ça? Comment on se prépare à jouer ça, Myriam?
Alors, comment on se prépare à jouer ça? Déjà en se documentant. Moi, j'avais Renaud Bertrand, donc le réalisateur, formidable réalisateur,
qui m'a fait preuve toujours d'une grande sensibilité dans sa mise en scène, heureusement.
Voilà, il m'a accompagné pour m'informer et me documenter. Donc voilà, à travers des documentaires, dont un qui est très important puisque c'est une des plus grandes, enfin c'est l'avocate par excellence qui s'occupe justement de ces enfants laissés là-bas dans les camps, et cette difficulté en fait de les rapatrier par rapport à la France, voilà, qui est effectivement, c'est pas si simple.
Et pour votre personnage, vous êtes la maman de Jamel. Sylvie Testu est la maman de la jeune fille qui est partie, Vanessa, voilà, de Vanessa. C'est une histoire évidemment bouleversante au cœur évidemment de cette histoire. Hicham, joué par Kassim. Comment tu te l'es approprié, Hicham, Kassim?
Bah, quand j'ai appris que j'allais jouer ce rôle-là, bah, fallait de la concentration. Au début, c'était un peu choquant. Après, j'ai été...
bien dirigé. Enfin,
voilà quoi, ça m'a touché. Sylvie, dans le film, a été une très bonne une grand-mère. Mariam aussi.
Tu marques des points, là, à côté de toi, t'entends.
Et franchement, je pourrais jamais remercier autant. Pareil pour Mathilde. Aussi, elle a été très gentille avec moi. Et je lui ai beaucoup donné de l'amour envers elle. Et puis voilà.
C'est beau, hein?
Oui, oui, vraiment, c'était une très belle rencontre. Avant le tournage, on a fait un jour une rencontre avec aussi Kassim et ses parents pour faire un peu une explication de texte du projet, ne serait-ce que parce qu'on s'y était engagé aussi auprès de l'ASE, puisque les enfants, quand on les met dans des situations un peu compliquées comme interprètes, on doit aussi les accompagner pour préparer tout ça psychologiquement, affectivement, et c'est normal. Et donc, c'était bien, on avait vraiment discuté du parcours de Hicham, de la douleur, parce que dans le fond, ce petit garçon qui arrive de Syrie, lui, ce qui lui arrive le plus fort, c'est qu'il est séparé de sa mère. C'est ça qui est le plus dur. Et qu'on le place, il est un peu, il tombe de la lune dans un univers qu'il ne connaît pas. D'une certaine façon, sa violence, elle vient aussi de la douleur d'être séparé de tout ce qui l'entourait jusqu'à présent, et principalement de sa mère. et projeté dans un univers qu'il ne connaît pas. Et donc souvent on en a parlé avec Cassim et sa maman aussi qui était là, et je lui disais, tu sais, Hicham, il est dur, mais il est dur parce qu'il souffre, et c'est un enfant que tu peux aimer, c'est un enfant dont tu peux être fier. Moi, ça m'avait touché qu'on en parle ensemble. Et après, moi, j'ai été bluffée sur le plan professionnel de Cassim. Il est ultra sérieux, c'est-à-dire que bon, il avait pas beaucoup de dialogue puisque au début il parle pas beaucoup, mais il était hyper engagé, sérieux, vraiment super généreux quoi. Et toute la famille derrière, il y avait aussi son père, son oncle, les grands-parents, enfin ça a été toute la famille, le maître qui nous a suivis, et c'était un super cadeau. Donc tu vois, c'est de l'amour. Ça a l'air d'être une histoire parfaite, mais c'était une histoire.
Une histoire difficile malgré tout. Moi, il y a quelques dialogues qui m'ont marqué, qui te percutent quand on dit par exemple, ben oui, qu'un enfant il fait pas le djihad, il est pas né en faisant le djihad. Un enfant, c'est un enfant, lui ce qu'il veut c'est vivre, apprendre, voir des copains, et parce que il y a des organisations qui ont plutôt peur de les voir arriver, ou même peur de ces enfants-là, alors qu'un enfant est un enfant quoi. Aujourd'hui, j'ai trouvé bien de remettre un peu ça dans le contexte finalement, Myriam.
En fait, on le met dans une position de coupable. Ouais. En fait, on le condamne alors que c'est la victime. Et il est là le problème, en fait. C'est que lui, il a pas demandé à avoir des parents qui sont soit djihadistes, criminels. Enfin, voilà, on va le culpabiliser. Enfin, en tout cas, on le rend coupable en le laissant là où il a pas à être. Un enfant, ça a besoin de jouer, ça a besoin d'aller à l'école, ça a besoin de... Et tous ont ce besoin. Donc voilà, je vais pas spoiler le film, mais en tout cas, on raconte en ce sens.
Et nous, c'était important justement de parler des a priori. Ces deux femmes, au début, elles ne se connaissent pas, elles ont des a priori l'une sur l'autre. La société a des a priori sur les enfants de combattants. Et on voulait en fait sortir de toutes ces étiquettes et parler des gens, des personnes. Ce sont des gens normaux à qui il arrive une histoire complètement sidérante, et ils n'y sont pour rien.
Parce que ces deux victimes, c'est deux femmes, hein, pour le coup, vous incarnez toutes les deux. Elles sont victimes au même titre que Cassim.
C'est vraiment ça. Elles sont victimes aussi, et c'est pour ça que c'est un film qui est plus de l'ordre de l'humain. C'est un film humaniste, en fait. Et on pourrait le penser politique, mais en fait, il est humaniste. On est vraiment sur un film d'espoir. Pour moi, c'est un film d'espoir sur l'humanité. Et un film d'amour.
On va écouter un extrait, ça s'appelle L2, c'est mercredi à 21h05 sur France 2, on revient juste après avec vous, on va parler de la musique aussi, parce qu'elle est très importante justement dans la dramaturgie, justement cette musique-là, et on revient juste après avec vous, à tout de suite.
Déjà disponible sur France.tv.
Vanessa est dans un camp de prisonniers en Syrie.
Pour moi, elle est morte le jour où elle est partie rejoindre les terroristes.
Elle a un garçon, il a 10 ans, il s'appelle Hicham.
Et alors ?
Bonjour maître.
Bonjour.
Elle, c'est l'autre grand-mère de mon petit-fils.
Mais on va pas se laisser faire, il doit y avoir un moyen de récupérer Hicham, non ?
Vous avez raison. On se batte.
Ouais.
Le juge des enfants a pris sa décision. Vous allez pouvoir accueillir Hicham.
Les enfants qui ont grandi en zone de conflit souffrent de stress post-traumatique.
Rien ne sera simple.
Oui, non, non, mais on va s'adapter. Hein.
Inédit. L2, le film multiprimé, sur notre plateforme et mercredi soir à 21h10 sur France 2.
Allez, de notre spécial L2 continue. On parlait justement de ces deux femmes qui vont apprendre du coup à se connaître, qui malgré tout, la connaissance de l'existence de Hicham va redonner un espoir, parce que on sent toutes les deux qu'elles ont un peu abandonné en quelque sorte tout espoir de revoir leurs enfants, que ça soit le personnage de Sylvie ou le vôtre, Myriam.
Voilà, c'est ça, et c'est le rebondissement d'une situation qu'on pense. Et comme tous, d'ailleurs, dans la vie, à un moment donné, on peut avoir un petit désespoir, et puis la vie est plus forte que tout, et il peut se passer effectivement tout n'importe quoi si on a une espèce de foi en l'être humain, et en, voilà, une espèce de force comme ça qui fait que les choses dépassent le jugement, dépassent le regard de l'autre, finalement, qui plus fait peur qu'autre chose.
Yoann, vous êtes mis justement dans la musique de film ou de série avec Léa il y a quelques temps maintenant, et c'est quelque chose dans lequel vous vous sentez particulièrement bien, je crois, tous les deux. C'est le premier drame hein, dans lequel vous vous êtes mis, L2, tous les deux. Comment on travaille la musique dans ce genre de cas? Parce qu'on le sait, la musique est très importante, elle offre une perception différente, une écriture différente souvent, quand on regarde un film.
Écoute, je veux dire, il était temps qu'il y ait un peu de drame dans nos vies, Léa et moi, parce que depuis l'album Roue Libre sur lequel on avait travaillé ensemble, il y avait déjà des choses, des jalons d'expression musicale sur des sujets qui sont très, qui peuvent être très durs. Je trouve qu'avec L2, ce qui était chouette, c'est qu'on avait à la fois, il y a des éléments extrêmement dramatiques, mais aussi des grands moments de tendresse et d'enfance
et d'espoir.
Et qui personnellement avec là qui m'inspire énormément, enfin qui nous inspire vraiment énormément. Et c'était du coup d'avoir un peu ces deux aspects très lourds et très durs et à la fois de l'espoir de l'enfance,
cette lumière.
Mais vraiment, hein, c'est il y a même des plans comme ça qui sont, enfin je peux pas trop les révéler parce que il y a des scènes comme ça qui sont des fois très effectivement ouvert sur le ciel et sur des choses très très tendres et qui sont vraiment super chouettes à mettre en musique pour Léa et moi, qui sont d'un naturel à éveiller nos inspirations à nous deux. Et c'est pour ça vraiment c'était pour le coup une expérience très très fluide artistiquement avec tout.
Vous l'avez préparé sur Rush la musique ou est-ce que sur scénario? Ou est-ce que c'est plus facile avec les images? Qu'est-ce que vous préférez dans ce genre de cas?
Alors là, on est tous. Léa fait très très bien ses devoirs. Elle lit vraiment le scénario de manière très approfondie. Il y a des choses qui s'éveillent pas mal. Personnellement, moi, c'est plus l'image qui fait éveiller les choses. Et du coup, à nous deux, c'était voilà, il y a eu un travail en amont, mais vraiment, c'est vraiment les images qui ont mis, et le jeu des acteurs qui ont mis vraiment la petite étincelle de voilà, des premiers thèmes, des premières éléments musicaux.
Kassim, est-ce que t'as une scène préférée, toi?
Quand je cours et il y a la police.
Le début, la première scène du film où on aperçoit vraiment un enfant chétif, hein, en quelque sorte. Hein. T'avais peur ou pas?
Non, enfin, c'est pas que j'avais pas peur, parce que je sais que c'était un rôle, c'était pas dans la vraie vie, enfin, on est dans la vraie vie, mais que c'était pas dans ma vie habituelle, donc...
Tu réussissais à bien faire la différence, quand même, entre les deux, à toujours te mettre dans la peau de Hicham, mais de toujours penser quand même que toi, t'étais Kassim.
Oui, parce que quand on pense que c'est la vraie vie, ça peut marquer, et après, comme dans le film on dit, ça peut faire des séquelles.
T'as joué dans De Grâce sur Arte, hein, une mini-série événement l'année dernière. Aujourd'hui, est-ce que t'es une star à l'école? C'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que les copains et tout te demandent des autographes? Est-ce que les filles te demandent des photos?
Non, parce que je suis pas encore connue. Je suis pas Mbappé, donc non.
Mbappé fait pas de cinéma. Toi, tu joues, hein, aussi.
Il est plus connu que moi, mais c'est tu joues le cinéma, c'est pour jouer le cinéma. Si c'est pour être connu, il faut autre chose.
Il y a un rôle que t'aimerais, par-dessus tout? Est-ce que s'il y a des producteurs là qui nous entendaient, ou Mathilde qui est à côté, pour un prochain film, quel est le rôle que tu voudrais qu'elle te confie?
Un petit footballeur.
C'est vrai? Ah, on rejoint Mbappé presque alors.
Presque.
Bon, si tu vas faire un biopic sur Mbappé, t'as vu?
Oui. D'ailleurs, c'était vraiment chouette parce que quand on a fait le casting des enfants, on a vu quelques enfants, même si on a fait notre choix très vite sur Kassim, tous, quand on leur demandait qu'est-ce qu'ils voulaient faire, ils voulaient tous être footballeurs et ils aimaient tous Mbappé. Donc je crois que vraiment, notre cher Kylian, il est dans le cœur de tous les jeunes Français et ça, c'est chouette.
Myriam, il y a une scène particulière qui t'a marqué?
C'est difficile parce qu'en fait, j'avais tellement d'intensité et en même temps, je trouvais que, enfin, c'est un film qui a beaucoup de poésie aussi. Donc, j'ai toujours vécu, j'ai l'impression qu'il y en a trop pour les dire. Donc, j'en retiens pas. En tout cas, avec un bonheur énorme de jouer avec cette immense actrice qui est Sylvie Testu. Qui est pour moi, voilà, c'était un cadeau de pouvoir jouer avec elle. Toutes les scènes étaient intenses. Il y avait une équipe d'acteurs incroyable. Kassim, comme disait tout à l'heure Mathilde, il est étonnant de talent. Donc Renaud est un réalisateur aussi qui porte tellement avec grâce les acteurs. C'est un bonheur à chaque fois.
Et vos enfants qui sont véritablement flippants quand même, hein, avec leurs fusils, ils sont vraiment brigadés totalement, quoi.
La situation est tragique, énormément tragique, quoi. C'est justement ce talent de faire un film sur un sujet si grave.
Parce qu'eux n'ont pas réalisé. On le voit dans le film, ils réalisent pas en fait ce qui se passe. Ils sont toujours dans leur tête sur le djihad, ils ont du mal, quoi.
Mais aussi, il faut remettre dans le contexte, ils sont partis il y a 11 ans et ils étaient très très gamins. Vanessa, elle part, elle n'est pas encore adulte, elle a 17 ans. Et Jamel, on pense qu'il a 18-20 ans. C'est des enfants très immatures encore quand même. Il ne faut pas oublier qu'ils avaient un énorme manque de maturité. C'est d'ailleurs souvent comme ça qu'on arrive à fanatiser les gens, c'est parce qu'ils sont pas assez mûrs pour réfléchir.
Une histoire difficile, mais avec beaucoup de lumière, beaucoup d'espoir, beaucoup de poésie, tu le disais Myriam aussi, beaucoup de belles musiques. En tout cas, vous allez découvrir, ça s'appelle L2, c'est mercredi à 21h05 sur France 2, et Kassim, je dirais, il faut pas le rater, on est d'accord?
Ah, il faut pas le rater, car c'est un film qui a des valeurs, enfin, je peux dire ça comme ça, et ne le ratez pas.
Le mot de la fin. la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Merci Mathilde, merci Myriam, merci Johan d'avoir été avec nous et puis on vous dit à très bientôt en tout cas.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci Alain, à bientôt.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre gros coup de cœur cette semaine au cinéma, ça sort mercredi dans les salles. C'est notre spécial La Poupée qui démarre aujourd'hui. Et on a la chance d'avoir Sophie Beaulieu, sa réalisatrice, qui est avec nous. Bonjour Sophie.
Bonjour.
On va avoir toute une partie de l'équipe des comédiens et comédiennes qui vont être avec nous et qui vont défiler justement. Zoé Marshall, alias La Poupée Audrey. Bonjour Zoé.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et puis Marianne Bassler qui joue la maman de Rémi, alias Rosie. Bonjour Marianne.
Bonjour.
Merci d'être là toutes les trois. Alors moi j'ai passé un super moment, je l'ai vu au Festival d'Angoulême il y a maintenant plusieurs mois. Et il faut dire que j'ai été complètement charmé d'une, évidemment par la poupée que joue Zoé, mais surtout aussi par le sujet du film qui est très très original, qui n'a qu'une autre prétention, c'est voilà, nous faire passer un bon moment, nous faire rire. Mais d'où est venue l'idée?
Alors l'idée elle est venue d'un jour où je suis tombée sur un reportage sur des hommes qui vivaient avec une poupée en silicone, hyper réaliste. Ils étaient amoureux de leur poupée. Vraiment, ils s'inventaient un quotidien avec elle, etc. Et ils vivaient cachés parce que, voilà, c'est pas assumé complètement. Mais ils voyaient pas le problème. Ils considéraient que c'était un vrai couple, une vraie relation. Et donc, moi, j'ai eu envie de hurler, mais pas du tout. C'est pas une relation. Puisque la fille est une poupée, donc voilà, et ça m'a donné envie d'écrire un film sur ce sujet. Mais au départ, je voulais faire un film de vengeance. La poupée se réveille et dit « j'ai pas du tout envie d'avoir cette vie-là ».
Revenge poupée.
Voilà, un revenge movie avec une poupée qui dit « attends, qu'est-ce que c'est que cette arnaque ?». Mais en fait, comme ils sont touchants, ces hommes-là, il y a un endroit où ils sont sincères dans leurs sentiments. Bah, du coup, je suis partie sur une comédie sentimentale. C'est comme ça que ça m'est venu, cette idée.
En tout cas, ça marche très très bien, Zoé. Franchement, tu m'as épaté parce que vraiment, la poupée, uniquement quand déjà elle ne bouge pas, mais à un moment donné, alors on va comprendre au fur et à mesure du film qu'on a affaire à Rémi, qui est un célibataire depuis 6 mois, qui ne se remet pas de sa relation précédente et qui, pour pallier un peu ce vide, va donc acquérir une poupée dans une société jusqu'au moment où cette poupée va devenir réalité. Et c'est là, Zoé, que tu interviens.
Enchantée.
Alors, qu'est-ce qui t'a plu, toi, en premier dans le rôle ? Zoé.
Ce qui m'a plu, c'était quelque chose que j'avais jamais fait déjà. Ce qui m'a plu surtout, c'est le scénario, parce que j'ai trouvé très bien écrit et que des scénarios où quand tu lis, tu rigoles, c'est quand même très rare. Et donc là, j'ai beaucoup, beaucoup rigolé. Et j'ai surtout encore plus rigolé quand j'ai su que c'était Vincent Macken qui jouait Rémi. Donc je me suis dit, c'est exactement le rôle. Et surtout dans ce rôle qui est quand même hyper intéressant et qui est hyper solaire et qui rapporte quelque chose de pétillant et qui rapporte aussi beaucoup de questionnements. Et donc du coup, j'ai adoré le personnage, mais aussi l'histoire.
Et ce qui va évidemment perturber Rémi, c'est que quand cette poupée va se réveiller, elle va être corps et âme dévouée à lui, en fait, hein, comme quand elle était endormie. D'une, ça va le perturber, ça va rentrer pile poil à un moment où il va faire la rencontre de Pat, l'intérimaire dans sa boîte. Et d'ailleurs, on va les accueillir dans quelques instants aussi, on va en parler avec eux. Marianne, le rôle de Rosie, alors ça c'est la maman de Rémi, qui m'a fait rire, mais je crois qu'à chacune des apparitions de Rosie, on rigole.
Mais moi j'ai énormément ri en lisant le scénario, d'ailleurs j'ai jamais autant ri en lisant un scénario. Ça donne l'impression parfois que c'est un film un peu féministe, parce que la poupée elle devient quand même assez trash quoi, assez...
Ah bah si ça se réveille assez docile, ça va se compliquer quand même.
Ça se complique un peu. Hein.
C'est ça qui est drôle. Alors Marianne, il y avait un mot que j'avais peut-être pas entendu depuis très longtemps, Rastaquer. Et celui-là, il fait mouche. Vous allez voir, il arrive à un moment du film. Alors celui-là, je crois que quand je l'ai vu, toute la salle, mais ça a été plié de rire.
Oui, oui, c'est vrai. C'est des mots un peu qu'on retrouve plus dans le langage d'aujourd'hui. C'est clair. Moi aussi, ça m'a rappelé un peu Tintin à l'époque. De mes BD d'enfance.
Vous avez su le sortir d'un naturel absolument déconcertant, Sophie.
Mais sur le Rastaquer et Rasta tout court, donc, parce que j'ai développé ce film dans le cadre de l'atelier scénario de la FEMIS. Donc mes collègues ont lu chaque version, etc. Et du coup, je suis une petite dédicace à un de mes amis qui a la lecture de cette phrase. Rasta, Rastaquer, c'était, je crois, sa réplique préférée. Donc ça me fait plaisir que vous la citiez.
Voilà. Exactement. Zoé, alors c'est vrai que cette poupée docile au premier abord va se révéler vouloir des fois un peu prendre même son indépendance. Comment tu t'es approprié toute l'évolution de ce rôle quand on sait qu'un film généralement en plus est tourné dans le désordre?
En vrai, je sais pas trop, mais je sais que j'ai eu Sophie quand même qui était une directrice d'actrice incroyable et qu'on du coup à chaque scène savait exactement ce qui s'était passé avant et où le personnage en était, donc c'était très très facile de travailler en fait finalement. Et après, bah, je l'ai pris comme le travail d'un scénario où je savais mon point final et donc du coup j'ai travaillé comme ça, quoi. Mais j'ai pas une technique particulière. Hein.
On a des scènes immobiles, c'est difficile ça ?
Ouais, c'était marrant. Difficile, je sais pas, mais c'était précis en tout cas. Mais vu qu'on avait bien bossé avant, c'était plutôt cool et c'était très très marrant. Le pire, c'est de pas rigoler en fait quand Vincent joue devant toi et qu'il faut pas bouger. C'est ça le plus difficile en vrai de vrai.
Oui, bah, quand on a des scènes ou des répliques comme ça avec des bonnes punchlines, même lui, ça a dû être difficile parce que t'as des répliques aussi qui sont très très fortes. C'est extrêmement bien écrit. Hein. Au niveau du scénario, Sophie, vous avez été aidée ? Comment ça s'est passé ?
Alors en fait, je l'ai écrit. Enfin, j'ai sorti une première version à la fin des 1 an de l'atelier de scénario. Donc j'ai été aidée par Jacques Acciotti, qui est le directeur de l'atelier où j'étais, et aussi par mes petits camarades avec qui je faisais l'atelier. Donc en fait, à chaque étape du scénario, ils faisaient un retour et on devait réécrire, etc. Et ensuite, je suis sortie de là avec une première version. J'ai pitché le film à des producteurs. J'ai rencontré mes producteurs Nicolas et Raphaël. Et là, on a réécrit. Enfin, j'ai réécrit encore une ou deux versions. Et puis, ça a été assez vite, en fait.
Sophie, quelle était la scène où vous avez eu le plus de mal à garder votre calme derrière la caméra ?
Oh là là. Alors.
Il y en a eu beaucoup.
Ouais, il y en a eu beaucoup. J'ai des souvenirs de. Alors, j'en ai 3 comme ça qui viennent. Mais en fait, j'en ai plein. C'est vrai que je vais raconter le film. Mais j'en ai un où Vincent ne faisant rien. Juste à regarder la poupée devenue vivante s'agiter. Donc ça, c'était, il fait rien, mais juste j'en pouvais plus de rire tellement tout passait dans ses yeux et c'était très drôle. Il y a une séquence de barbecue dans mon film et ça, le barbecue, j'ai vraiment beaucoup ri. Et heureusement, j'étais dehors, un peu loin, donc même parfois on m'entendait, donc fais attention à pas rire. Et puis avec les parents, notamment Marianne qui justement qui a une réplique et dit oh, elle nous fait une crise d'ado, là ça va passer, ou vivement que ça passe. Et ça, bon bah pareil, à chaque fois, avec mon assistante, on riait comme ça. Mais il y en a plein, j'en ai plein.
Il y a toute une galerie de personnages, en tout cas, ou en couleur. Pour terminer aussi, Zoé, ton plus beau souvenir peut-être, ou la scène qui t'a fait le plus rire ?
Alors moi, c'est une scène pas tant exceptionnelle que ça. C'est une discussion avec Vincent. Mais je sais pas pourquoi, ce jour-là, j'arrivais pas à jouer avec Vincent, qui sortait une réplique en parlant de sa mère. Et voilà, ça m'a fait partir en fou rire pendant, plus de 5 prises, je crois. Voilà.
Le boyau de la rigolade, on appelle ça.
Exactement.
Marianne ?
Mais moi, quand je joue des scènes drôles, je suis assez sérieuse, hein. Je suis assez au premier degré. C'est surtout en lisant le scénario, qui était extraordinairement bien écrit, que j'ai beaucoup rigolé, notamment dans les scènes au bureau avec Cécile de France. Mais à l'écriture, je me tordais de rire.
On va rire, je vous le dis. C'est mercredi au cinéma, ça s'appelle La Poupée. On va vous faire toute une spéciale, puisque dans un instant, c'est Cécile de France et Vincent Macken qui nous rejoignent. On va écouter la bande-annonce. Merci Sophie, merci Zoé, merci Marianne d'avoir été avec nous. On n'a pas fini d'entendre parler, je vous le dis. À très vite. Merci les filles.
À très vite, merci.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Elle rentre dans l'ascenseur comme ça, elle me dit « Dis donc, ça serait top qu'on aille faire du parapente ce week-end avec ta femme. » Non mais hola, hola.
Elle fait quoi, Audrey, dans la vie, Rémi ?
De la com. En fait, nos 6 mois, je vais lui préparer une blanquette.
Police nationale, j'écoute.
Enfin voilà, ma poupée s'est réveillée. Bon, vous ne pouvez pas rester ici. Hein.
Pourquoi ? Je suis exactement la même, mais en vrai.
Non, mais ne m'approchez pas.
Voilà, La Poupée, c'est mercredi au cinéma. Et on a récupéré nos 2 invités suivants qui sont avec nous. Cécile de France. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et puis Vincent Macken également qui est avec nous. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Merci d'être là tous les deux. Alors Vincent, évidemment, c'est Rémi, hein, notre célibataire endurci, qui s'est entiché de cette poupée depuis 6 mois, dont on a tant parlé avec Zoé et Sophie à l'instant. Et puis Patricia, bah, c'est l'intérimaire qui débarque à la société et qui risque bien de rebattre les cartes et de faire chavirer un peu le cœur de Rémi quand même. Hein.
Oui, ces 2 femmes, cette poupée et Patricia, sa nouvelle collègue, vont bouleverser la vie de Rémi, qui est un homme qui est un peu abîmé par ses chagrins d'amour. Et donc là, cette poupée va lui réapprendre à aimer finalement. Et puis Patricia, mon personnage, c'est une femme authentique, libre, qui a pas peur du jugement des autres. Elle est elle-même, quoi, comme
un côté très naturel chez elle.
Voilà, j'allais dire comme la nature l'a faite. Et elle va évidemment, nous en tant que spectateurs, on a très envie de voir ce Rémi tomber amoureux de Patricia, parce que voilà, c'est avant tout une comédie. Et puis je trouve que Vincent Campin, la manière dont il interprète son personnage, Rémi, avec beaucoup de sensibilité, en montrant sa vulnérabilité, c'est un clown très tendre. que moi j'avais envie, en lisant le scénario, j'avais envie de voir Vincent interpréter Rémi, comme on sait qu'il sait très bien faire, quoi. C'est une vraie comédie romantique avec cette poupée qui devient vivante, c'est complètement saugrenu comme idée, mais ça fonctionne, je crois. En tout cas, dans le scénario, ça marche.
Ah oui, ça fonctionne franchement super bien. Et Vincent, là, le film sort mercredi, hein, dans deux jours. Et jeudi matin, toutes les femmes vont tomber amoureuses de Rémi. Est-ce que tu te prépares à ça, Vincent ?
Non, pas du tout. Non. Mais je trouve que ouais, le scénario est très très fin. Et c'est vrai que à chaque fois qu'il y a une séquence, on peut s'attendre à quelque chose. Et ça devient autre chose.
On va de surprise en surprise.
J'ai tellement eu de chance d'être entouré de Cécile et de Zoé. Vraiment, c'est un cadeau. Ce que j'ai trouvé génial dans le scénario, c'est aussi que tout est un peu déjoué, avec drôlerie, avec humour, et que justement cette histoire d'amour, cette comédie romantique, elle vient mais par le côté, et je pense que on s'attend à plein de choses, mais c'est une vraie comédie romantique dans les règles de l'art, et je trouve qu'on aime, on a envie d'aimer Pat, on a envie d'aimer la poupée, on a envie d'aimer aussi la sœur.
Rémi
et la sœur et la famille aussi. Il y a tout un traitement aussi de la famille, de qu'est-ce que c'est que des parents qui rêvent de quelque chose pour leurs enfants.
Il y a tout plein de petits sujets comme ça, effectivement, en filigrane qui sont évoqués quand même dans le film malgré tout. Mais c'est vrai que ça tombe à un moment quand même. La poupée se réveille au moment où il rencontre Patricia. C'est quand même pas de chance ça, Rémi.
Ouais, ou peut-être que c'est une métaphore de la vie, hein, mais je veux dire, en tout cas, ce qui est une chance, c'est de pouvoir tomber amoureux. Quelque part, quoi.
Est-il vraiment amoureux de cette poupée, finalement, ou est-ce qu'elle comble un vide chez ce célibataire depuis 6 mois, quoi?
Ce qui est sûr, c'est que on comprend dans le film, et c'est un peu bête de dire, mais qu'on peut pas aimer une projection, et que l'amour n'est pas une projection, c'est quelque chose de plus fou, mystérieux, fantaisiste, et ce qui est Patricia, quoi.
Donc, il y a une belle morale, en tout cas, je trouve aussi, effectivement, sur ce film. Quelle est la scène la plus drôle à jouer face à Vincent ou aux autres comédiens?
Ah bah, toutes les scènes du parc de loisirs. Nous sommes obligés tous les deux, car nous travaillons dans une entreprise de gazon synthétique, de faire acheter un maximum de gazon synthétique à des émirs saoudiens pour des terrains de football. Et donc nous devons en quelque sorte les séduire, entre guillemets, pour qu'ils achètent absolument. Et on est embarqué dans un parc de loisirs et je me souviens que moi, Cécile, j'avais des fous rires absolus en voyant Vincent dans la peau de Rémi, parce que c'est encore là tout le clown qui sortait, qui jaillissait de Vincent et qui évidemment est absolument maladroit et ridicule. Et c'est ça qui est fort chez Vincent, c'est qu'il ose vraiment se montrer ridicule et de l'absurde et le grotesque. Il en a pas peur du tout, quoi. Il a un sens... Et en même temps, avec tellement de sensibilité que on rit de lui, mais on est aussi touché par lui. Et donc voilà, il y a toute une scène dans le film où on doit sauter sur des trampolines, on doit faire des combats de boudin, des choses qui évidemment mettent Rémi dans des situations assez burlesques.
Et embarrassante même par moment. Mention spéciale pour les fans de Demain nous appartient. Vous remarquerez, il y a Mayel et la Jaoui qui jouent un rôle extraordinaire. Vous allez voir dedans et qu'à sa petite touche aussi, parce que chaque rôle aussi, c'est la subtilité quand même de Sophie et de son scénario. C'est que chaque second rôle même a aussi son importance à chaque fois par petite touche, parce que le rôle de Mayel aurait peut-être pu faire chavirer à un moment donné le cœur de Cécile. Enfin, pas de Cécile, mais plutôt de Patricia, du coup.
Oui. Tous les personnages, la sœur de Rémi, Domi, elle s'appelle, parce que le film parle évidemment des stéréotypes de genre, des comportements genrés, hein, que nous avons et du regard qu'on porte sur les femmes, mais aussi sur les hommes. Et donc ce personnage de Domi, par exemple, qui est très beau parce qu'il est androgyne et parce qu'il casse justement les codes de genre. Et donc voilà, chaque personnage, parce qu'il est perçu et il est traité de manière tendre, en fait. Et avec beaucoup de douceur, de joie, je trouve, et ben, c'est à travers eux, à travers leurs émotions, on a aussi la vision du monde de Sophie Beaulieu, là, en l'occurrence, mais aussi une vision de notre époque, des réflexions et des prises de conscience qu'on est en train d'avoir sur justement tous ces stéréotypes et ces injonctions données aux hommes et aux femmes.
On continue à parler de la poupée, évidemment, dans quelques instants. On va réécouter un extrait. Vincent et Cécile vont céder leur place justement à Del Journeau et Gilles Bermecki qui vont venir nous rejoindre pour la dernière partie de cette spéciale La Poupée. Aujourd'hui, le film sort mercredi. C'est notre gros coup de cœur ciné cette semaine à ne pas manquer au cinéma. Merci Vincent, merci Cécile, encore une fois. À bientôt et merci de revenir régulièrement dans notre émission. À la prochaine.
Merci beaucoup, merci.
Merci, au revoir.
Bonjour mon amour.
On se calme, hein, on se connaît. Enfin, ça va très vite, quoi.
Au fait, Rémi, il y a ta femme qui a appelé.
Je vais vous décevoir, j'ai rien à raconter.
Bah oui, je sais.
Audrey. Enfin.
Et voilà, dernière partie donc pour La Poupée qui sort mercredi dans les salles. On le rappelle, on continue à en parler. Est-ce que là on a le personnage de Bernard et on a le personnage également de Domi avec Adèle Journeau qui nous rejoint. Bonjour Adèle.
Bonjour.
Et Gilbert Melki qui est avec nous. Bonjour Gilbert.
Bonjour, bonjour.
Que vous avez vu dans Kaboul Kitchen. Moi, c'est une série inoubliable pour moi, surtout qu'on revoit régulièrement Stéphanie Pasterkamp qu'on adore aussi. Et franchement, La Poupée, on passe un merveilleux moment. C'est léger, c'est de la comédie. Et on va dire que Domi, Adèle, est un personnage quand même assez haut en couleur. C'est la sœur de Rémi, qui va pas tout comprendre à ce que lui raconte Rémi, hein, il faut le dire.
Non, c'est vrai qu'elle comprend pas tout, mais elle soutient tout de même. On va le dire comme ça. Je crois que c'est le propre des frères et sœurs qui se connaissent bien. Je pense qu'il y a une sorte de confiance un peu en ce que l'autre fait, même si on sait pas trop. Et voilà. Et comme je vois qu'il est un peu dans le désarroi, je m'en occupe, quoi.
Alors, qu'est-ce qui t'a plu en premier chez ce rôle de Domi quand t'as lu le scénario, Adèle?
Bah, déjà, j'ai aimé ce rapport-là entre les deux, que ça soit une sœur qui soit là coûte que coûte. Elle est hyper efficace, en fait, Domi. C'est un personnage qui sait exactement où elle va, avec qui elle est et pourquoi.
Elle tergiverse pas.
Non, voilà. Et du coup, c'est assez agréable de jouer comme ça, parce que, enfin, de jouer comme ça et de jouer des personnages comme ça, parce que du coup, on peut aller loin vite ou très proche très vite aussi. Mais du coup, il y a une efficacité qui permet une vraie palette de jeu. C'est pour ça que j'ai dit oui, et aussi pour le film en lui-même, parce que sinon, c'est trop petit que de parler que de son personnage.
Gilbert. Bernard, un papa exigeant puis qu'attend avec impatience que enfin Rémi lui présente la femme de sa vie, parce que toute la famille est complètement au diapason et a très peur que cette nouvelle femme ne lui plaise pas. Il va falloir qu'il ait le coup de cœur.
Mais là,
j'ai l'impression qu'il l'a bien.
Il a le coup de cœur, parce qu'il la trouve très belle, il la trouve parfaite. Vu qu'il est chirurgien esthétique, je crois qu'il a jamais fait un travail aussi bien. Il a jamais vu la perfection comme ça. Donc c'est pour ça que il lui dit qu'elle est belle, quelle beauté, etc. Donc il est très, très heureux.
Vous avez plu en premier chez Bernard?
Bah moi, chez Bernard, ça m'a plu. Ce qui m'a plu beaucoup, moi, c'est le scénario qui m'a plu. Les personnages, le scénario. Et de faire, un type, qui est complètement aux antipodes de politiquement réactionnaire, mais parce que j'aime bien jouer des réactionnaires, parce qu'il faut trouver toujours l'humain qu'il y a dans les réactionnaires, et c'est important. Le réactionnaire, faut pas le jouer réactionnaire, faut le jouer sympathique. Les réactions, ils se font toutes seules, ça lui échappe, il est couillon et donc ça lui échappe, donc faut pas la peine de jouer les couillons comme ça, donc voilà.
Il faut dire, Adèle, que Domi est quand même très surprise et ne comprend vraiment absolument pas tout quand Rémi lui annonce que la poupée s'est réveillée. Et là, je crois qu'elle a l'impression de vivre sur une autre planète finalement.
Oui, là pour le coup, elle se questionne un peu plus sur les tenants et les aboutissants et sur ce que devient son frère aussi. Parce que là, c'est un tournant, c'est-à-dire que si c'est vrai, bon bah là c'est de la science-fiction. Et si c'est faux, bah là mon frère va être très malade, quoi. ça craint grave ou quoi.
C'est-à-dire que le personnage de Bernard, il est tellement dingue, il est tellement cinglé, et il est tellement content qu'il soit avec une poupée, c'est pas important. Il faut qu'il soit avec quelqu'un. Ouais. Si c'est une poupée, bah il est content quand même, le père.
Qu'elle lui plaise, surtout.
Elle lui plaît beaucoup, hein. Elle est parfaite. Donc elle lui plaît beaucoup. Mais voilà, c'est le personnage qui fait que bon. Il est content, le père. Il a
quelques scènes d'anthologie avec le couple, hein, de Rosie, justement, avec Marianne Bassler, là, tous les deux, le couple que vous jouez. Ouais. Mais il est jouissif à souhait.
On se marrait beaucoup sur le tournage à faire ça.
Adèle, quelle a été la scène la plus drôle pour toi à jouer, peut-être?
Oh, bah, très certainement une des scènes avec les parents, justement, avec Gilbert, Marianne, Zoé et Vincent. Oui, la scène du repas, je pense que c'est une scène où on a craqué, je pense, 6, 7, 8 fois.
On ne peut pas tout dire là maintenant, mais ils verront une scène qui, moi, je pense qu'est une scène, une très belle scène.
Légendaire. Faut dire que la sœur va prendre de l'importance au fur et à mesure, vous verrez du film, on ne va pas tout raconter et surtout pas spoiler la fin. Mais on va dire que la poupée va prendre de l'ampleur dans la vie de sa sœur.
Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a une forme d'attachement, mais plus qu'avec la poupée, même si elle la touche évidemment, mais elle a l'impression d'aussi... avoir en sa possession le moyen de rendre son frère un peu plus épanoui, quoi. Donc je pense que c'est un doux mélange de son frère et de la poupée, plus que de la poupée ou que son frère, quoi.
Et c'est ça qui est assez drôle et qui donne des situations évidemment totalement cocasses hein, dans tous les domaines. Hein. C'est vrai que chaque scène a son lot de rebondissements et de drôleries. Et c'est ça qui est chouette. Comment elle est Sophie Beaulieu en tant que réalisatrice?
Elle est extrêmement précise, je dirais. Elle est très précise dans son cadre et très précise dans le texte. Ouh là là. Gare aux virgules. Non.
Ça sent le vécu là.
Non, mais je dis ça avec beaucoup d'admiration aussi parce que elle lâche pas. Elle lâche pas son idée. Comme je juge pas non plus qu'on revienne sur ce qu'on a écrit parce que même je pense que c'est nécessaire à des endroits. Mais Sophie, elle a vraiment tout pensé. Donc c'est très agréable d'être avec quelqu'un qui nous borde sans nous
brider de trop,
indolent ou voilà pour autant quoi.
Juste milieu.
Tout à fait, vraiment tout à fait entre la précision et l'envolée. Il y a quelque chose qui peut s'envoler parce que c'est précis. Moi, j'aime travailler comme ça, donc ça tombe bien.
Bon, en tout cas, on va passer un moment super, je vous le dis. Moi, c'est mercredi au cinéma. Ça s'appelle La Poupée. On va terminer cette spéciale avec vous. Merci infiniment, en tout cas, Gilbert. Merci, Adèle, d'avoir été avec nous pour ce printemps. Et puis, on peut vous dire quoi pour 2026? Plein de belles choses?
Oui, faut que ça cartonne, ça va être super. Non.
J'en suis sûr. On va vous accompagner pour ça.
Bonne chose à tout le monde en 2026. J'espère.
Merci beaucoup Gilbert.
Mais je vous en prie, merci à vous.
Merci Adèle.
Merci beaucoup.
Bernard, Rémi est venu avec Audrey.
Elle est parfaite, ta petite femme. Parfaite.
Rémi s'est fait quitter, il s'en est jamais remis. Heureusement qu'il m'a prise.
Et toi, tu es heureux avec Audrey?
Oui.
Mais...
C'est pour ça que t'as pris une poupée, pour pas souffrir.
Rémi me dit qu'il faut que j'ai ma vie à moi, donc si je commence à m'épiler, à maquiller, à me démaquiller, à me muscler, à mincir, eh ben je vais faire que ça. Et j'appelle pas ça avoir sa vie à soi, moi. Oh.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur cinéma est consacré au film Pour le meilleur qui sortira mercredi dans les salles. À cette occasion, nous avons la réalisatrice qui est avec nous, Marie Castille, mention char. Bonjour Marie Castille.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On a également celle qui a inspiré le film, je crois on peut le dire, la véritable Susanna qui est avec nous, accompagnée de Philippe Croison. Bonjour Susanna.
Bonjour.
Merci d'être là. Dans quelques instants, Philippe Croison nous rejoindra avec la fausse Susanna, enfin Susanna 2. Ouais. Je crois que c'est comme ça que tu l'appelles d'après mes antennes. Lily Fleur Pointeau qui nous rejoint. Marie Castille, déjà, première question que j'ai envie de poser. Qu'est-ce qui a donné envie de mettre en scène et en lumière, en image, ce fabuleux destin de Philippe Croison?
Et
Susanna.
Exactement. Alors déjà, j'avais vu un reportage un jour sur France Télé et j'avais découvert Philippe et je trouvais que son histoire par rapport aux exploits qu'il avait fait, je trouvais ça incroyable et je me disais oh c'est incroyable qu'il ait jamais eu un film inspiré de sa vie. Alors je l'ai contacté. Et il m'a répondu. Et puis, je lui ai demandé si voilà, je pouvais venir le rencontrer. Et donc, je suis venue. Et c'est là où j'ai découvert Susanna. Alors, je leur ai posé plein de questions, comme je fais d'habitude. C'est l'ancienne journaliste que je suis. Et j'ai découvert leur histoire, leur rencontre. Et je trouvais ça absolument incroyable et puis tellement inspirant. Et je me suis dit, eh ben, en fait, c'est le thème du film. C'est l'angle que je veux prendre pour ce film que je veux réaliser en travaillant avec eux, en les revoyant plusieurs fois, etc. pour, encore une fois, leur poser plein de questions par rapport à leur quotidien, des anecdotes. J'étais tellement, mais vraiment, éblouie par leur couple, leur vie.
On peut être que bouleversé par l'histoire de ces deux-là. Ouais. C'est une ode à l'amour, ce film.
Totalement, totalement. Et c'est pour ça, moi, j'aime toujours inspirer le public. J'aime toujours lui donner de la force, de l'espoir, des envies. Et je me dis que, voilà, avec cette histoire, d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de réactions déjà de personnes qui découvrent le film et qui me disent que, ça leur donne de la résilience, de la... encore une fois, de l'énergie. Et puis, par rapport à ce couple, eh bien, aussi, ça donne beaucoup de leçons hein, par rapport à comment on peut être dans la vie. Et voilà, donc c'est ce que j'adore, c'est ce que j'adore faire avec mes films.
C'est vrai que on va en parler de leçons de vie hein, avec Philippe dans quelques instants puisqu'il va nous rejoindre, mais... Susanna, t'as déjà écrit un livre, alors nous on se connaît depuis quelques années, il faut le dire. Et moi j'ai toujours été assez bouleversé par le couple que vous formez tous les deux, t'en as fait un très joli livre d'ailleurs. Ce film est un peu inspiré du livre, c'est un peu une ode à l'amour, l'amour est plus fort que tout. C'est ça un peu que nous montre aussi votre histoire à tous les deux avec Philippe.
Oui, c'est montrer que tout est possible, quand on a l'amour, il n'y a aucun souci, on peut y aller, on se fait confiance. C'est aussi un livre que j'ai écrit pour les 11 millions d'aidants qu'il y a en France, parce que nous sommes très très nombreux. Ce livre-là, ça m'est venu à l'idée justement un jour. Philippe me dit, je dis à Philippe, écoute, je veux écrire un livre sur ma condition d'aidante. Et je lui dis une fois, il m'écoute pas. Deux fois, il m'écoute pas. Et là, je tape du poing sur la table et puis je lui dis, là, je veux écrire un livre. Et là, il s'est mis en action pour que je puisse écrire ce livre. Et j'ai écrit ce livre avec Emmanuel Dalseco, qui était à l'époque journaliste de handicap.fr. Ça a donné un très, très joli livre qui est très apprécié du monde des aidants puisque personne ne parle d'eux. Et ce livre-là leur donne un petit peu une petite vision enfin de ce que c'est que le monde des aidants. Oui, pour en revenir à votre question du départ, oui, il faut de l'amour et tout est possible finalement. Handicap, personne valide, tout est possible en amour.
Tu viens de casser le mythe hein, quand même. Tu veux dire que Philippe Croizon est comme tous les autres hommes, ils n'écoutent pas toujours leur femme du premier coup?
Ah bah oui, vous voyez là, j'ai dû écrire un livre pour qu'ils m'écoutent.
Bon, mais en tout cas, c'est réussi, ça c'est clair. C'est vrai que dès les premières images, on est embarqué dans l'histoire de Philippe, de cette électrocution, de votre rencontre à tous les deux, et puis de tous ces challenges qu'il a voulu effectivement se lancer contre vents et marées, parce que tout le monde lui dit « mais t'es fou, mais jamais tu y arriveras ». Et c'est peut-être encore ça qui a donné le plus de force. Est-ce que vous avez ressenti aussi, Marie Castille, dans cette histoire? C'est le fait qu'on lui dise non, tu n'y arriveras pas, c'est même pas la peine d'essayer, c'est foutu.
Oui, mais sauf que moi, ce qui m'intéressait, c'était que Susanna, justement...
Allait lui donner cette force.
Exactement, exactement, et que tout est possible. Et je voulais vraiment mettre en lumière Susanna, moi, parce que j'avais bien compris que dans tous ses exploits, alors qu'elle était là toujours avec lui, et que pour moi, c'était... aussi grâce à elle qu'il y arrivait par rapport à son soutien. Elle était toujours dans l'ombre de Philippe. Alors c'est pour ça que dans le film, je voulais vraiment la mettre en lumière.
Moi je trouve ça assez extraordinaire, Susanna. Je te le dis, moi qui te connais dans l'ombre depuis des années, de te voir comme ça, partir dans la lumière, je trouve ça assez extraordinaire parce que on oublie dans la mise en scène de Marie Castille, et ça c'est assez magique, on oublie presque justement ce rôle d'aidant. On voit juste une femme et son mari, comme monsieur et madame tout le monde aussi, quelque part. Et c'est ça que j'ai trouvé assez magique. L'amour prend le dessus de tout.
Exactement. Et je remercie beaucoup Marie Castille d'avoir mis ce monde des aidants au cinéma, parce que ça va être quelque chose. Quand les gens vont regarder le film, il y a plein d'émotions dedans. Et elle a réalisé deux de mes rêves dans le film, mais je ne dirai pas lesquels. Je laisserai au public l'imagination, enfin d'imaginer quels sont ces deux rêves. Et en fait, le film parle bien de la difficulté du monde des aidants, en fait, c'est d'être toujours là, d'être toujours présent, de porter, de faire des tas de choses pour la personne qu'elles accompagnent au jour le jour.
Mais c'est que ça soit normal.
Et que tout soit reste normal, exactement. Il faut se dire que quand on part en vacances avec une personne handicapée, c'est très lourd parce qu'il y a plein de bagages, il y a le matériel, donc il y a énormément de choses. Mais l'amour est là et fait tout le reste, quoi. On le fait quand même par amour, comme une maman le fait pour son enfant parce que c'est par amour, comme moi avec Philippe, comme quelqu'un pour ses parents qui sont vieillissants. Donc voilà, c'est le monde des aidants est très important et il faut leur apporter aussi un petit peu de lumière pour que ils soient vus et qu'ils soient reconnus dans le rôle qu'ils exécutent tous les jours.
Exactement. On va parler des comédiens qu'elles incarnent tous les deux. De Lydie Fleur-Pointeau, que moi j'ai grand plaisir à retrouver. Je la suis depuis plus de 15 ans, y compris dans les séries jeunesse de France 2 à l'époque. Et je trouve ça assez extraordinaire parce qu'on la voit pas assez souvent. De pouvoir mettre aussi Lydie Fleur-Pointeau du coup à l'honneur justement dans ce film. Et Pierre Rabhine qui est absolument incroyable. On le découvre un peu chétif au début et je trouve qu'il explose au fur et à mesure, Pierre.
Oui, oui. Je me suis vraiment d'ailleurs battue quand je cherchais le distributeur du film parce que alors je trouvais ça fondamental en fait pour le public de pouvoir trouver quelqu'un qui interpréterait Philippe et qui soit dans la même condition physique que la sienne, sachant que Pierre en plus faisait des compétitions de nage, etc., de natation. Alors je me disais, oh,
c'est l'idéal.
L'idéal. Et il avait eu le courage, parce qu'il avait jamais joué dans un film, hein. Il avait eu le courage. Bah, alors déjà, l'audace de me rencontrer quand je l'avais contacté sur Instagram. Pareil, je suis allée le rencontrer à La Roche-sur-Yon. Et puis, je trouvais qu'il était... c'était tellement incroyable qu'il veuille bien lire le scénario, qu'il veuille bien faire des essais, etc. Parce que c'était très important. Et c'est là où j'avais fait venir Lily Fleur, sans au départ penser qu'elle allait faire le rôle principal féminin, mais et tous les deux ensemble, alors qu'ils ne se connaissaient pas bien sûr, j'ai trouvé que il y avait quelque chose de magique entre deux, et puis en plus je trouvais qu'il y avait une ressemblance entre Lily Fleur et Susanna, et puis vraiment je trouvais qu'il y avait quelque chose de magique. Alors c'est pour ça que je me suis vraiment battue pour que ce soit eux deux, parce que Lily Fleur avait joué dans mon premier film, hein, ma première fois, et j'avais trouvé que c'était une formidable actrice, et je m'en voulais d'ailleurs de pas l'avoir fait rejouer dans d'autres films, alors que je fais toujours ça. Moi je suis très fidèle au talent parfois que je découvre, que je révèle. Je suis très fidèle aussi avec les techniciens et mes équipes. J'adore ça.
Nous aussi, on est fidèles, parce que je crois que c'est le quatrième ou cinquième film qu'on fait ensemble, Marie Castille, qu'on promotionne ensemble. Et donc, on en est très fiers. Depuis La Fête des Mères, je crois que c'était le premier qu'on avait fait ensemble. On est là à chaque fois. Donc, merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir accordé ces quelques minutes. Ça tombe bien, parce que Susanna 2 va arriver dans quelques instants. Lily Fleur Pointeau, l'autre Susanna. Et puis, le vrai. Bah oui, l'unique, Philippe Croizon. Il débarque dans quelques instants, mais on va écouter la bande-annonce, évidemment, juste avant de les accueillir. Merci beaucoup, Marie Castille. Merci, Susanna.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Et à bientôt.
À bientôt, j'espère.
Bonjour, c'est Philippe et Susanna.
Nous sommes heureux de vous présenter les premières images du film.
Pour le meilleur, inspiré de notre histoire.
Rendez-vous au cinéma.
Merci beaucoup pour votre invitation. Juste une petite précision sur mon physique. Je suis handicapé.
Moi, je suis portugaise.
Oh mon Dieu, ma pauvre. Moi qui me plains de mon petit handicap, de rien du tout.
Allez, ne bougez pas, Philippe Croizon et Lily Fleur Pointeau débarquent dans 3 minutes dans Chut, on écoute la télé. À tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé.
Je vais où ça monte et je pense à vous. Tous les mecs et les filles de mon âge me regardent comme si je fais la rage. Je jouerai avec ou sans vous, oh ça ne m'importe pas. J'imagine tous vos jolis visages, ça me fout dans un drôle d'état. Je n'ai besoin de rien du tout, c'est entre moi et moi. Je viens, ça monte et je pense à vous. Je n'ai besoin de rien que de mon secours. Je viens, ça monte et je pense à vous. La vie, le feu, le sang, j'ai la main sur tout. Je suis l'idole et le fanboy, à part qui ne m'aille. J'ai un truc pour les déguisements. Au fond de moi, j'ai la main sur les détails. Je choisis le rythme et les mouvements. Tous les mecs et les filles de mon âge me regardent comme si je fais la rage. On dit de moi que je suis fou et que ça me passera. J'ai la fièvre à tous les étages, ça me brûle dans le bout des doigts. Je n'ai besoin de rien du tout, c'est entre moi et moi. Je viens, ça monte et je pense à vous. Je n'ai besoin de rien que de mon secours. Je viens, ça monte et je pense à vous. La vie, le feu, le sang, j'ai la main sur tout.
Mmh.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé. Chute, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Voilà, pour le meilleur, ça sort mercredi au cinéma et on a la grande chance, ils sont là tous les deux, chose promise, chose due. Lily Fleur Pointeau qu'on a grand plaisir à retrouver, c'était nos années pension. Ouais. Ça remonte, c'était mes débuts à la radio.
J'avais 16 ans et j'en ai 36, donc 20 ans, ouais, qu'on s'est juste.
Quelle belle aventure, en tout cas. Philippe Croizon est avec nous également aujourd'hui. Bonjour Philippe.
Et bonjour, bonjour à tous.
Alors, pour le meilleur Philippe, c'est vrai qu'on en parle depuis plusieurs années. C'était vraiment, pour toi, vraiment un objectif de pouvoir adapter ce livre de Susanna. C'est vraiment une ode à Susanna, pour le coup, hein, ce film.
Ouais, ouais, carrément. Enfin, c'est l'histoire de nos deux parcours de vie. Hein. C'est vraiment une belle histoire d'amour que Marie Castille a pris en main et elle en a fait un scénario extraordinaire. On l'a lu avec Susanna. J'ai dit oui tout de suite quand j'ai lu le truc et j'ai dit bah ouais, pourvu que ça devienne un film. Quoi. C'était un de mes rêves qu'un jour cette histoire devienne un film. Et c'est pas un rêve que j'ai provoqué comme les autres, comme la traversée de la Manche, les 5 continents ou être pilote sur le Dakar. C'est un rêve que j'ai laissé venir. Et un jour, un appel téléphonique, Marie Castille, qui me dit, voilà, je veux faire un film sur votre histoire. Et on est là aujourd'hui à 2 jours de la sortie.
C'est magique, tout ça. Lily Fleur, tu connaissais un peu l'histoire de Philippe ou pas avant d'arriver sur le film? La rencontre avec Susanna, j'imagine, ça a dû être chargé d'émotions, tout ça.
Oui, bah, je connaissais l'histoire de Philippe Croizon, mais je connaissais pas du tout Susanna. Et c'est quand Marie Castille m'a proposé le film que j'ai regardé plein de vidéos, YouTube, j'ai lu tous les livres. Et ensuite, en janvier, 3 mois avant le tournage, on a rencontré Philippe et Susanna. Et ça a tout de suite bien matché, et c'est vrai que c'était quand même une pression de jouer voilà un personnage qui existe, que j'ai rencontré. Et en fait, avec Susanna, on s'est tout de suite très bien entendu et ils m'ont mis à l'aise. Donc, ça m'a donné de la force pour commencer le tournage.
Tu te souviens des premiers mots qu'elle t'a dit ?
Bonjour. Non, ce qui m'a vraiment touchée, c'est que elle m'a dit j'aurais pas pu rêver meilleure comédienne pour jouer mon rôle. Donc, c'est vrai que ça, c'était le feu vert après pour continuer tout le tournage. J'aurais pas pu rêver meilleur compliment.
Ouais, c'est vrai que c'est génial. Pierre Rabine, Philippe aussi.
Ouais, mais je veux rebondir à ce que vient de dire Lily, parce que honnêtement, Lily, enfin, c'est une véritable actrice. C'est une actrice pure et dure, parce que quand j'en ai de l'émotion en le disant, parce que on se souvient encore des débuts de tournage, et qu'on était sur le tournage avec Susanna, on était derrière l'écran de contrôle et on s'est regardé. On m'a dit mais c'est toi. On est en train de te voir toi. Enfin, Susanna, Lily, elle a tout regardé, les vidéos, les livres, les machins. Et elle est arrivée sur le film. C'était vraiment Susanna, quoi. Donc c'était vraiment impressionnant. Et donc Pierre Rabine, qui lui n'est pas acteur, c'est un jeune garçon qui a été amputé des 4 membres comme moi, qui a été électrisé aussi et qui était nageur. Et donc Marie Castille lui a proposé le rôle et il a eu un coaching, hein, pendant plusieurs semaines pour devenir acteur.
C'est quoi les premiers mots que tu lui as dit, toi, Pierre?
Voilà, sois cool, détends-toi, amuse-toi, ne sois pas stressé, parce que c'est vrai qu'il était hyper tendu, hyper stressé. Il écoutait trop de gens autour de lui, trop de gens, que voilà, parce qu'il faut savoir, sur un tournage, il y a 40 personnes, et 40 personnes qui sont là en train de virevolter dans tous les sens, qui donnent leur avis et tout. Et je lui dis, bah, fais-toi plaisir, et c'était difficile pour lui, hein, c'était assez compliqué, mais il joue le rôle à merveille.
C'est vrai qu'il est assez incroyable, la rencontre avec Pierre.
Bah, on s'est rencontrés parce que on a fait des essais pour montrer au distributeur voilà que Pierre s'en sortait bien et qu'il arrivait à jouer. Il m'a tout de suite mis à l'aise en fait, parce que forcément moi c'est la première fois que je rencontrais une personne handicapée, etc. Donc quand on connaît pas, on peut avoir un peu peur, et en fait il m'a tout de suite mis à l'aise et on a fait les essais, et en fait ça, il y a eu une connexion et ma Cassie s'est dit bah ça y est, j'ai mon Philippe et ma Susanna.
On pourra dire que le Philippe de fiction t'aura fait courir, hein.
Ah bah ça.
Parce que t'as quelques scènes de course, hein, quand même, hein.
C'est marrant, c'est ce que tous les journalistes me disent. Ouais, ouais, j'ai bien couru de jour, de nuit, au bord de la plage.
Au bord des lacs.
Ouais, mais je le retrouve toujours, donc.
Oui, c'est déjà ça. La preuve, il est avec nous. Le vrai est avec nous. Et c'est vrai que c'est génial. Moi, Philippe, on se connaît depuis quelques années. Et c'est vrai que moi, j'ai vu le film avec beaucoup d'émotion, te connaissant en plus. Et c'est vrai que quand on voit ce dépassement de soi, mais c'est un modèle. Voilà, pour les jeunes qui savent pas quoi faire aujourd'hui, qui savent pas où aller, quelle direction prendre, alors qu'ils ont aucun handicap. Quand on voit ce que t'as été capable aujourd'hui de faire et d'accomplir, mais c'est une vraie leçon de vie.
Mais on le voit très bien dans le film. Enfin, quand on a un accident comme celui-ci, on est victime de son accident. J'ai été victime pendant de nombreuses années. Et un matin, je me suis réveillé, je me dis, je suis plus victime, je suis Philippe. Donc je suis redevenu Philippe. Mais pendant 7 ans, et ça transpire dans le film, je suis aigri, je suis méchant. On le voit, cette méchanceté dans le film. Et là, je me réveille. Et donc j'ai arrêté d'être une victime et je me suis dit, voilà, je me suis mis sur Internet. J'étais sur un site de rencontre. Et puis j'ai rencontré Susanna et ça fait 20 ans qu'on est ensemble et on a mené nos aventures, toutes ces aventures. Je dis on parce que le jeu J-E n'existe pas et ça transpire dans ce film, mais à 1000%. C'est pour ça que vous avez entièrement raison de le dire, il faut venir avec les jeunes, avec vos enfants, avec vos grands-parents, avec les tontons, les tatas, les voisins, les voisines. Enfin, faut venir ensemble parce que c'est un film à partager. C'est un film à partager, on peut pas venir tout seul dans la salle. Faut venir partager ce film. Pour moi, c'est important parce que le maître mot de toute notre life, c'est le partage.
J'aurais rêvé d'avoir une entraîneuse comme Corinne Maziero.
Mais j'ai une entraîneuse comme Corinne Maziero. Elle s'appelle Valérie Carbonel.
Elle était pas loin de la vraie Corinne Maziero.
Mais on est dans l'exactitude. On est dans l'exactitude. Corinne Maziero a très bien joué le rôle de Valérie, mon entraîneur. Valérie a été très très dure, très très violente. Et elle m'a dit surtout, je ne me demande pas d'être ton amie. Enfin, imaginez, on prend un mec qui a 40 ans, qui est gras comme un lardon, qui a jamais fait sport de sa vie, 20 kilos de plus qu'aujourd'hui. Et le mec, il veut traverser la Manche et il sait pas nager. Donc imaginez la pression pour l'entraîneur, pour le coach. Donc elle a une pression de dingue, donc elle est pas gentille. Elle est méchante avec moi. Enfin méchante dans le sens où il n'y a pas de faux semblant. Si je dois nager 2 heures, 3 heures, 5 heures ou 9 heures dans un bassin de 25 mètres, si je suis fatigué, elle va pas me dire « Oh mon pauvre petit garçon, c'est pas grave, tu viendras demain ». Elle dit « Non, ta gueule et nage ».
Mais t'as voulu y aller, t'y vas.
Exactement. Donc il y a pas de choix. C'est mon entraîneur et c'est l'équipe qui m'a emmené à la victoire. Et c'est Susanna. Sans Susanna, j'aurais jamais réussi la traversée de la Manche à la nage. Donc c'est pour ça que ce film, c'est un ode au dépassement de soi et c'est un ode aux aidants, aux aimants, aux aimantes et aux aidants. Et elle est où la limite entre l'aimante et l'aidante? Et dans le film, on le voit. L'aimante, des fois, elle disparaît et c'est l'aidante qui prend le relais. On voit cette histoire d'amour qui se construit. Et du coup, cet amour qui devient difficile parce que le personnage principal, enfin le personnage qui veut nager, lui en demande tellement à Susanna qu'elle elle se perd. Et donc, c'est un ode aussi pour les aidants, vraiment.
On s'est rendu compte hein, de toute l'émotion que Susanna pouvait envoyer. Tu l'as très bien retranscrit, moi qui la connais aussi du coup, Susanna, qui était avec nous il y a quelques instants. C'est vrai que toute l'émotion que tu as pu envoyer à travers des regards, à travers de la gestuelle aussi, c'est difficile ça de s'approprier justement quelqu'un qui est vivant comme ça et qui en plus te voit potentiellement sur un tournage.
Bah en fait, c'était tellement bien écrit et que ça s'est fait assez naturellement. Et pour rebondir sur ce que disait Philippe, c'est en fait elle a fait passer Philippe avant elle et même avant l'éducation de ses enfants, etc. Et c'était 24 heures sur 24 presque. Et elle enchaînait plusieurs boulots. Enfin, c'est juste incroyable ce qu'elle a fait par amour.
Quelle est la scène qui a été la plus difficile ou la plus facile pour toi? Ou une qui a tourné en rigolade? Un truc marrant aussi, on a besoin.
Un truc marrant ou là, hein, parce que forcément la scène d'amour c'est toujours particulier. Et toutes les scènes de Noël avec les enfants, on a beaucoup ri. Et c'était génial, surtout qu'on a Olivia qui joue Delphine, la dernière de Susanna, c'est la petite fille de Philippe. Et c'est un sacré personnage, Olivia.
Ah oui, c'est la petite là qui nous fait un bon sketch avec les bras. C'est elle est incroyable, ne la ratez pas celle-là parce qu'elle m'a fait mourir de rire. Quand elle t'imite.
Ah génial, ouais, bah, elle m'imite parce que Delphine, notre fille, elle avait vraiment fait quoi quand elle était petite, elle m'avait imité, elle arrivait en pliant les genoux, les bras et Olivia qui est ma petite fille qui joue le rôle de Delphine dans le film, wow, c'est compliqué à suivre, j'espère que les auditeurs vont comprendre tout ce que je viens de dire, elle a fait le même sketch quoi et là on a éclaté de rire sur le tournage et tout, donc c'est chouette qu'il y a une de mes petites filles qui soit dans le film et puis il y a aussi Jacques Tuzé qui était là, le vrai nageur longue distance avec qui je me suis entraîné et qui est dans le film et qui c'est lui qui se jette à l'eau à la fin et je vous raconte pas la fin.
Non, parce que c'est vrai qu'il y a en plus une petite apparition surprise. Vous allez voir de la vraie Susanna et du vrai Philippe Croizon qu'il ne faut pas manquer parce que voilà, celle-là, elle est pleine d'émotions et tout de suite, voilà, ça amène quelque chose effectivement au film. Alors, tu es aussi dans un documentaire de Fabien qui t'a suivi pour suivre des jeunes, faire une traversée des jeunes en situation de handicap.
Ouais, la traversée de la liberté, c'est des jeunes en situation de handicap qui font partie de l'académie Philippe Croizon. Et tous les ans, on les emmène à l'aventure. On a traversé, par exemple, la Manche, hein, Cap Griné, Cap Blanné, aller-retour. On a fait Tahiti, Montréal à la nage. Et là, cette fois-ci, on les a emmenés sur l'île du Salut, hein, là où il y avait les bagnards, à Cayenne. Et on les a jetés à l'eau pour qu'ils rentrent au continent à la nage. Normalement, chose qui est impossible. Ce film retrace toute cette aventure incroyable avec ces jeunes qui font encore du dépassement de soi et qui atteignent un objectif que personne ne croit réalisable. Et pourtant, tout est possible.
Sur France.tv, vous tapez la traversée de la liberté. Voilà, vous allez pouvoir découvrir effectivement ce très joli film, ce très joli documentaire. Lily Fleur, est-ce qu'il y a des projets? Théâtre, cinéma, télé, est-ce qu'on va te voir? Parce que moi, je trouve qu'on ne te voit pas assez. Alors, j'espère que ce film va te permettre de faire mettre la lumière sur la comédienne que tu es.
Ah bah, merci, j'espère aussi. Bah là, j'écris une pièce de théâtre sur, globalement sur la santé mentale, parce que je trouve que c'est un sujet dont on parle pas assez. Et dans ce domaine-là, la psychiatrie, il y a très peu de moyens. Donc voilà, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Ouais, Marie-Cassie m'a parlé de quelques projets, mais je peux pas trop en parler pour l'instant.
Bon, mais on attend avec impatience. En tout cas, pour le meilleur, ça, c'est mercredi au cinéma. Très joli film que je vous conseille aussi, dont on vous parlera très bientôt. Ensuite, on écoute la télé. Ça s'appelle Après la fin. Ça sera pour la télévision ce coup-ci avec Louis de Runx qui joue son propre rôle. J'imagine que tu connais Louis.
Oui, bien sûr, un sacré personnage. Ouais. Donc ça va être un beau film obligatoirement.
Ouais, réalisé par Frédéric Lopez. Il a été primé 4 fois au Festival de Luchon. Un film incroyable dont on vous reparlera aussi, qui parle aussi du dépassement de soi et d'une magnifique histoire d'amour. Donc voilà, plein de choses et plein de similitudes en tout cas. Cinéma, télé, il y en a pour tous les goûts. C'est génial. Merci à tous les deux d'avoir terminé cette spéciale.
Bah, merci à vous. J'espère
à bientôt.
Que ce film vous plaira.
On reste pas 15 ans, hein, ce coup-là.
Non, l'année prochaine.
On se revoit avant.
On se revoit avant.
Merci Philippe, à très vite.
À très vite, bientôt.
Il s'appelle Philippe et il me fait rire.
Ta vie est pas déjà assez compliquée comme ça.
Philippe, la seule fois qu'une femme acceptait de te rencontrer, c'était pour remplir son frigo avec ton allocation d'handicapé.
Tu te trompes. Avec Susanna, c'est pas la même chose.
Alors, Philippe Croizon, quel sera votre prochain exploit ?
La traversée de la Manche.
Papa, il sait pas nager, il flotte à peine avec sa bouée. T'imagines traverser une mer ?
J'ai un objectif à atteindre.
Distance, 34 km.
Peut-être un peu fou.
Philippe !
Mais moi, j'y crois.
Et si tu commençais déjà par faire une longueur ?
Déjà ici, une largeur.
Même s'il s'entraînait pendant des jours, il faudrait 4 ans.
2 ans. On vous en donne 2.
Il faut l'arrêter là, son métabolisme a atteint ses limites.
Non, moi je sais qu'il peut encore y arriver.
Répète après moi, je vais y arriver.
Philippe !
Je l'ai jamais vu aussi vivant depuis que t'es dans sa vie.
Je vais y arriver.
Plus fort !
Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Mon amour, je te demande solennellement, veux-tu bien de moi comme époux ? Après, tu m'excuseras, j'ai pas mis un genou à terre.
Lundi prochain, dans Chute, on écoute la télé.
Allez, lundi prochain, nous consacrerons une large partie de notre émission au film La Poupée avec Sophie Beaulieu, Cécile de France, Vincent Macaigne, qui nous rejoigneront. On aura le plaisir également d'accueillir Zoé Séverin, qui joue le rôle de Jasmine Casmi dans Ici tout commence. Et puis, grande spéciale, les mystères des grottes du Régulus avec Laurie Pester, qui sera notre invitée, dont c'est la première réalisation. Elle sera accompagnée de Chem Sodat et Antoine Hamel, nos deux héros.
Le rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Hey, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de peaux gourmands, Jade et Ali, disponibles dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Chute, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas. Plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.